vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, en cette émission du mardi 1er avril 2025, nous faisons dans cette émission un bilan de l'organisation et du déroulement des manifestations du 7 et 8 mars dernier. Pour cela, nous avons réalisé un interview avec le collectif des féministes révolutionnaires que nous vous diffuserons tout au long de cette heure d'émission. On vous laisse écouter ça.
Eh bien, bonjour. On est aujourd'hui le mercredi 19 mars, ouais, c'est ça. Et on est ensemble pour discuter du 8 mars. Avec le collectif des féministes révolutionnaires. Et résultat, je vais vous demander de vous commencer par vous présenter et par présenter votre collectif, s'il vous plaît.
Eh bien, moi, je m'appelle Sao. Et du coup, je suis donc militant aux féministes révolutionnaires depuis 2 ans et demi, 3 ans.
Moi, c'est Lisa. Je suis militante aux féministes révolutionnaires depuis la fondation du collectif en septembre 2016. Et donc pour te présenter rapidement, oui. Les féministes révolutionnaires, ou FEMREV, comme on s'appelle nous-mêmes affectueusement, on s'est rencontrés pendant la mobilisation contre la loi travail, d'où la date de 2016. Et en fait, pendant cette mobilisation, on avait fait plein de trucs féministes, notamment sur les facs. On avait fait des assemblées générales en non-mixité étudiante, en région parisienne. Et à la fin du mouvement, en septembre 2016, il y avait encore une petite dynamique, il se passait encore des trucs au niveau étudiant, on continuait de se voir et on s'est dit que ce qu'on avait construit au cours du mouvement, on avait envie de le poursuivre, de le garder. On faisait l'analyse à ce moment-là qu'il manquait dans le paysage féministe parisien un collectif qui s'intéresse notamment à la question de l'exploitation économique des femmes et des minorités de genre et qui fasse le lien entre l'oppression patriarcale, la domination et les luttes au travail.
Résultat, vous avez un problème avec le capital.
Voilà, tout à fait.
Okay.
C'est pour ça qu'on s'appelle révolutionnaire.
D'où révolutionnaire.
D'où révolutionnaire, parce que dès le début, on fait l'analyse que toutes les discriminations qu'on subit à l'échelle individuelle, Justement, c'est pas un problème individuel, c'est le fruit d'un système, c'est le fruit de structures sociales, et que pour mettre fin à ces discriminations, il faut changer le système dans son ensemble, d'où le révolutionnaire, de féministe révolutionnaire. Mmh.
Résultat, quand vous vous intégrez, vous, au paysage féministe à partir de 2016, vous faites ce constat-là, comment est-ce que vous êtes reçue, avec qui vous travaillez, en fait, finalement, autour de quelles activités vous avez construit votre pratique politique?
Alors, 2016, c'est une année où le mouvement féministe à Paris et en France, mais bon, on va quand même rester sur le contexte parisien parce qu'on est quand même un collectif qui est implanté localement. 2016, c'est une année où le mouvement, il est encore très divisé. Sur la date du 8 mars et sur la date du 25 novembre, on a encore très régulièrement deux manifestations qui sont parfois directement concurrentes. Donc les divisions en fait qui fracturent le mouvement féministe, il y en a trois principales. La première, c'est la question du voile, avec toute une partie du mouvement féministe qui, en 2004, se positionne en faveur d'une loi pour interdire le port du foulard, et une partie du mouvement féministe qui défend au contraire la liberté des femmes à s'habiller comme elles le veulent. Nous, on s'inscrit dès le départ dans cette deuxième tendance. La seconde division, c'est sur la question des droits des personnes trans, avec une partie du mouvement féministe qui considère que il n'y a que deux sexes biologiques et une réalité qu'on ne peut pas dépasser. Et une autre tendance du mouvement féministe qui considère que en fait, la transidentité, c'est un vrai truc, et que en fait, l'autodétermination des personnes, et c'est la priorité, et qu'il faut absolument se battre pour les droits de tout le monde. Notre collectif s'inscrit dans cette seconde tendance. Et enfin, la troisième grande division, qui est, je pense, à l'heure actuelle, celle qui est toujours la plus prégnante et qui continue de faire des dégâts, c'est sur la question de la prostitution et / travail du sexe, avec toute une partie du mouvement féministe qui considère que la prostitution, c'est quelque chose qu'il faut absolument abolir et que ça passe par la loi, et une partie du mouvement féministe qui considère que la prostitution est plus qu'une simple violence, mais parfois une stratégie de survie dans le système capitaliste, que c'est un travail qui produit de la valeur, qu'il y a une industrie autour des services sexuels, et qu'il faut se battre pour les droits des travailleurs et des travailleuses du sexe. Notre collectif s'inscrit, là encore, dans cette seconde tendance. Et donc, quand on fonde les féministes révolutionnaires, on est perçu immédiatement comme partout, on va dire, les organisations qui nous ont précédées et qui s'inscrivent dans, à chaque fois, un peu la première tendance que j'ai essayé de dessiner sur ces trois grandes divisions. On est perçu comme un énième collectif féministe qui se voudrait radical et qui se voudrait concurrent. Mais on n'est pas forcément perçu par l'autre partie du féministe, celle de notre génération, comme parfait en tout point sur toutes les questions, parce que nous, on défend dès le départ qu'il faut construire l'unité au sein du mouvement féministe, et qu'il faut recoller ces deux parties qui ont été déchirées, parce que dès le départ, on fait le pari que... Pour remporter de nouvelles victoires, pour arracher de nouveaux droits, il faudra se mettre tout ensemble à un moment, quoi. Et ça, pendant de longues années, ça a du mal à faire son chemin. Ça passe pas trop.
Ok. Parce que là, tu viens de revenir sur les différents points d'échauffement qu'il y avait pu avoir au sein du mouvement féministe. On sait aussi qu'il est arrivé à de nombreuses reprises qu'il y ait débat, polémique autour de la question carcérale et de la manière dont le mouvement pouvait sembler, certains courants en tout cas du mouvement, répondre à des dynamiques punitivistes. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, histoire qu'on puisse complètement situer votre collectif ?
Non, je pense, en effet, c'est super important, surtout qu'il y a une vraie actualité de la question, du rapport des féministes avec la prison, vu qu'il y a une actualité de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, il y a toute la question de que fait-on des agresseurs sexuels, que fait-on des violeurs. C'est pas un hasard si, dans l'actualité féministe des derniers mois, un des trucs les plus saillants, ça a été le procès des viols de Mazan. Et où, en fait, à la fin, tout un pan du mouvement féministe, mais enfin, au-delà du mouvement féministe, tout un pan de l'échiquier politique s'est félicité des peines de prison ferme, et notamment de la peine maximale pour Dominique Pellicot. Nous, aux féministes révolutionnaires, depuis le début, de toute façon, ce qu'on défend, c'est que renforcer l'arsenal répressif de l'État, c'est pas ça qui va résoudre la question des violences. En fait, les prisons, elles sont déjà pleines. Il y a toujours des gens qui violent, il y a toujours des gens qui volent, il y a toujours des gens qui tuent. Et d'ailleurs, François Fillon n'a pas rendu l'argent. ça montre bien que la prison, ça ne fonctionne pas. Et que donc, les solutions, elles sont à aller chercher, ailleurs. Pour autant, en fait, c'est très compliqué... quand t'es militante féministe et que t'es confrontée à des victimes d'agressions sexuelles qui cherchent une forme de réparation, notamment dans un parcours pénal, de dire non, faut pas que t'ailles porter plainte, c'est de la merde, et puis de toute façon, la justice de classe, tu vas faire enfermer un mec pauvre et racisé, alors qu'en vrai, les vrais méchants, c'est les mecs riches et blancs. Enfin, en fait, tu peux pas dire ça aux victimes de violence. Je veux dire, ça, c'est pas...
entendable.
Non, c'est pas entendable. Et puis en plus, en vrai de vrai, demain, dans tous les commissariats, les flics prenaient toutes les plaintes, et qu'il n'y avait pas des flics qui refusaient de prendre les plaintes pour viol, en fait, il y a des gens, peut-être que ça changerait des trucs dans leur vie. Mais pour autant, la prison, sur le moyen et sur le long terme, c'est pas la solution, qu'on défend. Parce qu'en fait, ça marche pas, ça produit plus de violence. C'est un lieu d'ailleurs privilégié pour les violences sexuelles, le milieu carcéral. Et puis c'est toujours les mêmes qu'on enferme et c'est toujours les mêmes qui s'en sortent. On s'inscrit résolument dans un courant du féminisme qui est pour dire que en fait la solution c'est pas là qu'il faut aller la chercher. En tout cas à l'échelle collective, on va pas se battre nous pour des avancées législatives qui font des peines de prison plus dures pour les auteurs d'agressions sexuelles, par exemple. Après, on ne va pas non plus se battre pour que les gens n'aient pas porté plainte à l'échelle individuelle, dans le système actuel et la façon dont, aujourd'hui, ça fonctionne la justice en France. Okay. Mais sur le long terme...
Oui, je pense que c'est à deux vitesses, entre guillemets. Il y a ce qu'on fait maintenant, tout de suite, et que on n'a pas le choix... Et ce qu'on veut pour le futur, quoi.
Voilà. Et sur la question des violences sexistes et sexuelles, nous, ce qu'on essaye de défendre...
en amont.
Voilà. C'est que, en fait, une violence, quand elle s'est produite, c'est déjà trop tard. Et donc, plutôt que de se demander de comment on va punir les auteurs, il faut qu'on réfléchisse à comment on prévient les violences. Et donc là, c'est mettre plus d'argent dans les services publics. Plus d'argent dans la prévention, dans l'éducation, dans la santé, dans tout ça. Former les gens à détecter, reconnaître, permettre aux femmes d'être indépendantes financièrement pour pouvoir se barrer d'une relation d'emprise, d'une relation de violence... pour nous, l'enjeu, il est là et ça commence par augmenter les salaires. Parce qu'aujourd'hui, la dépendance économique, c'est un facteur qui aggrave les violences et notamment qui surexpose au féminicide.
Et la précarité
dans son ensemble. C'est pour ça, augmenter les salaires, augmenter tous les revenus, les retraites, les bourses.
Nos conditions d'existence.
Les conditions d'existence des gens. Ça. Voilà, nous, c'est plutôt ça la réponse qu'on fait à des orgas qui nous disent mettons les violeurs en prison. En fait, ça va pas.
Ça va pas régler le problème.
Ça va pas régler le problème, ça empêchera pas qu'il y ait d'autres victimes. Et en fait, c'est sur ça que les féministes, elles devraient se concentrer aujourd'hui. Sur la prévention des violences, pas sur comment on va punir les agresseurs.
Ce que j'entends, c'est que résultat, vous avez des positions. Considéré comme radical, mais des méthodes qui auraient à voir avec le compromis.
Alors, pas forcément, parce que... Faut gagner l'hégémonie dans le mouvement féministe.
Ok.
Mais pour le faire, il faut accepter de se confronter les unes aux autres.
Donc le débat est toujours présent entre nous déjà, et ensuite avec les autres actrices du mouvement de manière générale, féministe et autres.
Se rencontrer, oui. Manifester le même jour, au même endroit, avec un même point de rendez-vous aussi. Mm-hmm. Et ce qui, déjà, ça peut paraître pas grand-chose, Mais c'est pas toujours le cas. Ouais, la plupart des collectifs en 2016 de notre génération se refusent catégoriquement à faire ça pour des raisons tout à fait légitimes. Mais du coup, quand nous on défend ça en 2016, on est parmi les rares à le faire. Alors on n'est pas les seuls. Il y a des gens avec qui on discute en 2016. On discute avec les camarades latino-américaines d'Alerta Feminista. On discute un petit peu aussi avec Femmes en lutte 93. On construit quand même des liens, des solidarités. On se retrouve sur certains trucs. Mais notre position est quand même assez minoritaire. Et notamment, nous aussi, dès 2017, et le premier appel international à la grève féministe du 8 mars, qui est lancé de l'Argentine par Neuna Menos, on défend que c'est ça qu'il faut construire. Donc un 8 mars, on ne fait pas la manif à 17h. Un 8 mars, on fait la manif en plein milieu de la journée, et où on fait grève toute la journée. Et ça, même avec les syndicats, en 2017, c'est très compliqué.
Ok. Et résultat, c'est pour ça aussi que vous participez, si je ne me trompe, à l'organisation du 8 mars.
C'est pour ça, ouais.
Et alors, est-ce que vous pouvez me raconter la manière, votre manière, de participer à l'organisation de cette mobilisation ?
À partir de janvier, on se rencontre très régulièrement pour discuter donc, avec les autres composantes du mouvement féministe, enfin en partie. Et on discute, alors au démarrage, ça va être ce qu'on va mettre dans l'appel, ce qu'on veut que le grand public, entre guillemets, entende de ce qu'on a apporté comme idée. Et puis après, on va rentrer dans des choses un peu plus techniques d'organisation pure, de quel collectif va être après quel collectif, ou après les syndicats, ou les partis politiques, etc. Dans quelle ordre on va les mettre dans la manif, à quelle heure on donne les rendez-vous, enfin toutes ces choses un peu pratiques qui permettent à ce que le 8 mars fonctionne.
Et en gros, pour la manif parisienne, le cadre qui organise la manifestation du 8 mars et qui rassemble à la fois, et c'est quand même de plus en plus important, les centrales syndicales, donc la CGT, la FSU et Solidaires principalement, et aussi des organisations féministes, des partis politiques, des associations de défense des libertés, etc. C'est du coup un collectif unitaire qui s'appelle Grève Féministe, qui s'est monté, je crois, en 2020 ou 2021. C'est assez récent. Bon, même si il est issu d'autres formations qui organisaient déjà le 8 mars les années d'avant. Mais en tout cas, pour cette année, c'est ce cadre-là qui a appelé à la manifestation parisienne. Grève féministe, ça regroupe essentiellement des gens de Paris, mais ça a aussi une portée nationale. Et l'appel de grève féministe, il est aussi signé par des organisations dans d'autres villes. Il est aussi repris comme l'appel à des manifs dans d'autres villes, pour d'autres villes. Et du coup, nous, c'est un cadre avec qui on est en discussion depuis forever, mais que là, cette année, on a plus investi, notamment parce que, du coup, comme disait Sao sur la question de l'appel... ou qui a concentré l'essentiel des discussions à partir de décembre-janvier, où il a été décidé d'axer le 8 mars sur la question de la lutte contre l'extrême droite. Depuis en fait la dissolution de l'Assemblée, depuis les européennes, les législatives, tout ça, il y a quand même un truc qui fait absolument consensus dans le mouvement féministe, c'est que la lutte contre l'extrême droite, c'est une priorité absolue. Nous, c'est quelque chose dans notre collectif dont on est très convaincu, mais au-delà de nous, à Grève Féministe, ça fait aussi un consensus. C'est pour ça que nous, on s'est aussi lancé dans l'organisation de cette manifestation. Et nous, à côté de ça, on construit également avec plein d'autres organes un autre réseau national qui est la coordination féministe, qui rassemble une trentaine de collectifs un peu partout en France, et qui là, plutôt, sont de façon très assumée sur nos positions. Ce réseau-là de la coordination féministe appelle également à la grève du 8 mars. On a aussi fait un texte qui, cette année, a été signé par plus de 200 organisations. Et énormément, énormément, énormément de de collectifs féministes locaux, de parfois très petits collectifs, mais qui en fait montrent toute la vitalité du mouvement féministe actuel aujourd'hui dans notre pays, quoi. Là où c'est vrai que l'appel de grève féministe, il va plutôt réunir des signatures d'orgas plutôt nationales. Genre les centrales syndicales, le planning familial, des ONG, des trucs un peu plus installés. Et l'appel de la coordination féministe, plus c'est un truc, on va dire, de terrain implanté localement, de petits groupes féministes, voilà.
Moi, nous, je pense, on a regretté ces dernières années de ne pas voir fleurir d'assemblée générale, notamment précédant la mobilisation du 8 mars ou celle de novembre.
Alors, il y a une assemblée féministe à Paris, pour le coup.
C'est celle de Paris banlieue.
Oui, absolument. Voilà. C'est un cadre dans lequel nous on s'est investi à sa fondation, donc c'était il y a 2 ans, enfin en septembre 2022. Enfin, tout ça est très lié à la coordination féministe parce que c'est pendant les rencontres d'été de la donc chaque année la coordination féministe dans l'été fait des rencontres nationales où tous les collectifs du coup qui composent le cadre sont invités à venir se retrouver dans une ville pendant quelques jours, débattre des perspectives du mouvement féministe. Et lors des rencontres de 2022, c'était à Grenoble, on a lancé l'idée d'essayer de faire un peu ce qu'on observait qui marchait dans les pays où le mouvement féministe est très dynamique, en Italie, en Espagne, en Argentine, c'est-à-dire des assemblées féministes dans toutes les villes, des cadres ouverts facilement rejoignables, que tu sois déjà militante féministe ou pas, que tu sois un individu syndicaliste ou militante politique, peu importe. Bref, des assemblées pour organiser notamment la grève féministe du 8 mars. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu dans cette optique-là que nous, on s'est investis dès le départ dans l'Assemblée féministe Paris-Banlieue. Et assemblée qui existe toujours par ailleurs et qui est aujourd'hui très ancrée dans le milieu parisien et qui est très connue, on va dire, parce qu'elle organise la manif de nuit
du 7 mars,
sur laquelle j'imagine on reviendra dans la discussion. Donc, pour répondre à ta question, oui, ça existe. La difficulté, c'est que là encore, c'est un cadre qui est perçu comme un cadre concurrentiel au cadre traditionnel entre guillemets, et que en fait on a toujours des difficultés à dépasser ces fausses oppositions et ces fausses concurrences parce que il y a des méfiances qui subsistent des deux côtés, méfiances par ailleurs qui sont parfois très légitimes, mais qui font que du coup on n'a pas de cadre vraiment où tout le monde se parle.
Ok, et vous multipliez en fait vos interventions dans l'ensemble des cadres.
Oui, mais on peut pas être toujours partout. Donc après, on a des camarades qui s'investissent dans plusieurs cadres et qui permettent d'avoir des discussions qui sont un peu transverses avec tous les cadres et de pouvoir créer une unité par ce biais-là, même si, effectivement, si on pouvait tous se parler dans le même endroit, ce serait encore mieux. Mais pour l'instant, on fonctionne comme ça.
Et cette année, on s'était un peu retiré de l'Assemblée parce que c'était compliqué et qu'on avait l'impression qu'on n'arrivait pas à faire de cet outil ce qu'on souhaitait en faire, c'est-à-dire un outil pour construire la grève féministe du 8 mars, que ça ne nous aidait pas vraiment à faire ça. Du coup, on a un peu retiré nos forces, même si on a continué à suivre. Et
Qu'on soutient évidemment leur, notamment pour le 7 et tout ça.
Alors, allons-y, passons à ces fameuses journées du 7 et 8 mars. Malgré le fait que vous soyez un peu moins donc investi dans l'organisation de la manifestation de nuit, je pense que vous pouvez tout de même nous transmettre quelques informations sur la manière dont ça s'est un peu déroulé et l'intérêt qui vous semble d'avoir aussi cet espace qu'est la manifestation du 7 et pour laquelle cette année les gens se sont battus puisque la manifestation avait été interdite. Et puis finalement, l'interdiction a été levée. Et la manifestation a eu lieu. Donc quand même, quand il y a des petites victoires, c'est important de les signifier. On les prend.
Et les rappeler, les marteler. On a gagné.
Tout à fait. Et voilà, donc sur cette initiative en tout cas, qui finalement, par la détermination des unes et des autres, a pu avoir lieu... selon vous, c'est quoi l'importance d'avoir cet espace aussi, et à quoi il répond.
Donc, ça fait 3 ans que la marche de nuit a lieu. L'idée, c'est cette année, l'appel qu'avait sorti la marche, enfin l'assemblée et la marche de nuit de manière générale, c'était, enfin, il y avait un soutien qui était clairement énoncé pour la Palestine, et en fait, c'est ça qui a posé problème à Monsieur Retailleau, et c'est pour ça qu'il a souhaité empêcher les collectifs, les personnes de manifester ce soir-là. Et c'est, on le rappelle, une victoire, puisque la marche s'est bien tenue donc ce soir-là. L'idée, je pense que c'est d'avoir un espace qui est un peu différent de celui de la marche du 8, et d'avoir un quelque chose d'un peu plus radical, peut-être, en tout cas dans les positions qui sont celles des personnes qui s'investissent dans ce cadre-là.
Je pense que les marches de nuit, c'est un mode d'action qui est très important dans le répertoire d'action féministe. Alors, on n'a pas inventé les marches de nuit il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que c'est l'Assemblée...
Oui, non, pardon. Non, mais... pas clair.
Ça fait 3 ans que c'est l'Assemblée...
Que l'Assemblée l'organise.
Que l'Assemblée Paris-Banlieue l'organise, mais évidemment que ça existait avant. Et je pense que pour plein de gens aux profils très différents, cette manifestation, elle est très importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une manifestation non mixte, de nuit. Et que, en gros, se réapproprier l'espace public la nuit entre meufs et personnes LGBT, c'est très fort. Et en fait, la première fois que tu le fais, ça change un truc, je pense, dans ta tête, quoi.
Il y a une force qui s'en dégage.
Il y a une force qui s'en dégage.
C'est ma première.
Ouais.
C'est fou, quoi.
Voilà. Moi, à titre personnel, j'aime pas. Mais je sais que c'est très important. Non, mais on peut le dire.
Oui.
Mais je sais que pour le mouvement féministe, c'est très important, parce que c'est une expérience qui te sort de ton quotidien et qui te fait... c'est une expérience, oui.
Ouais, il y a vraiment cette idée de la réappropriation de l'espace. Et voilà. Moi, je me souviens que ma première, j'étais plutôt en fin de marche, et je voyais sur les murs les collages qui avaient été faits par les personnes qui nous avaient devancés. Et vraiment, c'était quelque chose de fou de voir toute la ville avec ses messages partout sur les murs, les gens qui scandaient. La nuit aussi, ça donne vraiment un effet... se réapproprier la nuit, quoi, vraiment. Et c'est... Franchement, moi, je trouve que c'était un... Enfin, j'en garde un très, très, très bon souvenir.
Et à l'international, c'est... En fait, la marche de nuit, c'est aussi le coup d'envoi des 24 heures de grève féministe. À partir du soir, on dit... On s'arrête, et donc à partir de ce soir, tout s'arrête, jusqu'au lendemain soir, avec cette idée que la grève, c'est pas juste le temps de la manif syndicale, entre guillemets, la grève féministe, c'est pas entre 14h et 17h30, la grève féministe, ça dure 24h, et pendant 24h, vous ne nous voyez plus faire tout ce pourquoi on pense que on est censé servir, quoi, et vous allez le sentir, en fait, parce que quand
Oui.
Tu parles d'une grève qui met pas en cause que le travail salarial,
bien sûr, non. C'est vrai qu'on l'a pas rappelé, la grève féministe, donc une grève totale de toute forme de travail. La force du mouvement des théories féministes, c'est d'avoir montré que le travail salarié, c'est pas le seul travail des femmes et des minorités de genre. Il y a aussi tout ce qu'on appelait le travail, dans un premier temps le travail ménager, dans un second temps le travail domestique, ce qu'on appelle aujourd'hui le travail reproductif. Donc c'est toutes les tâches qui peuvent être salariées ou non, qui produisent et reproduisent la force de travail. Donc l'éducation des enfants, le soin aux personnes malades, la préparation des repas, le ménage, le linge, les courses, etc., etc. Et donc l'idée de faire une grève de 24 heures, c'est aussi de montrer, ben voilà, une vraie grève générale, c'est une grève féministe. Parce que c'est une grève qui paralyse toutes les dimensions de la vie quotidienne, c'est une grève qui paralyse la reproduction et la production, c'est une grève qui paralyse le monde. C'est un peu ça l'idée. Et donc, moi, de mon point de vue de personne qui aime pas les marches de nuit, parce que voilà, c'est ma sensibilité personnelle, je pense que quand même c'est très important dans cette vision-là. Parce que s'arrêter pendant 24 heures, ça perturbe l'ensemble du quotidien. Et pas juste la journée de travail salariée, rémunérée, pour laquelle tu as une fiche de paye.
Donc c'est vraiment important. Tu la luttes au-delà même du salariat, même si ça n'exclut pas la question du salariat.
Non, bah non, encore non. Une fois, pour nous, c'est le but de faire le lien entre exploitation et oppression et de montrer que notre condition, elle est déterminée à la fois par notre place dans le système de production en tant que travailleuse, mais aussi par notre place dans le système de reproduction en tant que meuf et minorité de genre à qui on assigne le travail certaines reproductif, tâches. Certaines tâches, etc., etc. Donc c'est super important, ces marches de nuit. Et du coup, on se félicite du fait que les avocats qui ont été saisis tout de suite par les camarades de l'Assemblée aient pu faire annuler l'interdiction de la préfecture de Paris, qui a été, comme le rappelait Sao, soutenue par le ministre de l'Intérieur, qui se vante même qu'il aurait soufflé l'idée au préfet. Voilà. Say bitch, say bitch, say bitch, I am what you get between a Texas and a Bay bitch, way bitch, now I'm in LA bitch, catch me out in traffic, I'll be riding in the latest, made it, how the fuck a stereotype, used to fucking carry a knife, hit a lick like every night, now I'm living paradise, gambled like a paradise, bet it all than wanted all, a bank account just hella ride, left all the negativity behind, every city I would grind, push the product, push the line, bit the whop and flip the price, push the weight like exercise, I was really doing it, moving, getting my weight up, now it's time, I'ma get that payback, since like way back, all the y'all owe me mine, I'ma have to stay taxed, yes bitch say that, talking shit, they mad, lil mama see the ride and clean as what, Ajax, hate that, hate this, half of y'all hate your life, hating on the gram is easy, I would hate a hater's life, look bitch, I don't even know what the fuck made you mad, but running your mouth is easy, use that energy to chase a bag, look bitch, I don't even know what the fuck made you mad, but running your mouth is easy, use that energy to chase a bag, say bitch, 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 say bitch. Say again. I've been getting money, now they hating on a Mexican. It's best to get to know me, I'm in Snowy from the West, and it's been my pleasure to get vetted in this getting presidents invested in. Diversified, imagine my appall. When a bitch that wanna try me can't even buy shit at the mall. When I'm the type to help a bitch, and I ain't competing with you broads, and I be complimenting hoes, and you bitches be acting hard. I'm telling my girl you cute, you thinking I'm trying to fight. You dogging me, acting rude, talk shit like, am I alright? Now I'm like, bitches, you stupid, man, got all up in your mind. You thinking that every bitch that you see compete over guys? Not only am I the type to gas all you bitches up, I know what you going through, you competing over a bum and fighting hoes for a crumb that got your ass looking dumb. He driving your car all month and he asking you for some funds. The type to make local strippers do too much for crumpled ones. You out here working your ass off for a bad boy you fucking love. You leaving a good guy to go chasing after a thug, not knowing his ass ain't even a G, he a fucking dub. Not even a dub, a W, you definitely an L. And so by association, that's making you one as well. I don't gotta hate on you, you hate yourself, I can tell. I'll never hate on you, baby, you doing that by yourself. Say bitch, say bitch, say bitch, say bitch, say bitch, you hating on me, but say bitch, girl, you should come fuck with me. Say bitch, you hating on me, you say bitch, you hating on me, say bitch, say bitch, say bitch, say bitch, say bitch, say bitch. Say bitch, say bitch, say bitch, you hating on me but contemplating, girl, you should come fuck with me.
Et vous êtes de retour dans l'actualité des luttes, et ce jusqu'à 13h30 sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et on continue de vous diffuser l'interview réalisée avec le collectif des féministes révolutionnaires afin de revenir sur l'organisation et le déroulement des manifestations du 7 et 8 mars dernier. I'ma need like 7-8-5 big booty bitches. Pop that pill and drop that thing. Pop that seal and drop that flow. When y'all two go and y'all stay. Y'all been stopping all y'all life and watching out what not to say. Baby father magic got a kid all week, but not today. 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 Et vous dans cette dynamique justement avec toutes vos camarades, vous participez au 8 mars le lendemain. Et cette année-là, vous vous organisez de manière assez intensive autour de la question de l'extrême droite et donc de la présence problématique de certains cortèges au sein de cette manifestation unitaire. Alors déjà, est-ce que vous pouvez raconter un peu
comment vous en êtes arrivé là et comment vous avez travaillé, enfin ce que vous avez décidé et comment vous avez travaillé à mettre en place ce que vous avez décidé.
Parce que pour bien comprendre ce qu'on a essayé de faire le 8 mars et ce qu'on a fait le 8 mars, c'est quand même important de repartir de la base qui était pour nous du coup le dernier 23 novembre. Donc la date du 23 novembre, bon, à l'échelle internationale, c'est la date du 25 novembre, qui est du coup la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et à Paris et en France, l'organisation de cette journée, elle est depuis quelques années assumée par le collectif Nous Toutes, qui a fait le choix de faire la manif, pas forcément le jour du 25, mais de faire le samedi qui précède le 25, et donc en 2024, c'est tombé le 23 novembre. Et ce 23 novembre, nous, on faisait un cortège autour de la question de la solidarité internationale avec la Palestine, avec des camarades d'autres organisations, notamment avec l'Assemblée féministe Paris-Banlieue. Et en fin du cortège, à la fin de la manifestation, il y a du coup deux collectifs qui se sont rajoutés et qui ont pu faire la totalité du parcours en marchant à la fin. Ils étaient néanmoins protégés par un cordon de CRS. Ces deux collectifs, c'est donc d'une part le collectif féminin identitaire néofasciste Némésis. Et le second collectif, c'est un collectif qui est pro-politique du gouvernement israélien, qui s'appelle Nous Vivrons, avec lequel il y avait déjà eu des problèmes à des manifs féministes précédentes. Et donc ces deux collectifs ont pu participer tranquillement à la manif. Et nous, au niveau de notre cortège, on a été au courant très tard de leur présence dans la manifestation. On était déjà à mi-parcours, on avait passé Bastille, il était donc bon, c'était un République Nation, hein, le classico. On avait passé Bastille, il était près de 16h quand on a su que ces collectifs étaient dans la manif. Nous on était très loin parce que c'est quand même une date où il y a du monde depuis plusieurs années maintenant, le 25 novembre. Et aussi les collectifs féministes, ils manifestent en tête de manif. Après il y a les associations sur les autres thématiques. Après, il y a les syndicats. Et enfin, il y a les partis politiques tout à la fin. Et donc là, le cortège qui était en fait le plus proche géographiquement de Némésis et de Nous Vivrons, c'était le dernier cortège de la manif, c'était celui du Parti communiste, qui a fait remonter l'info de leur présence assez tard. Ce jour-là, nous, au niveau de notre cortège, on était assez désemparés. On s'est dit, on savait pas trop comment réagir. On se disait, c'est dur de faire un truc seul. En plus, il est tard. Tout le monde avait déjà sa place dans le cortège. Tout le monde avait sa tâche. On avait déjà notre service d'ordre à nous qui était mobilisé pour faire avancer notre camion. Enfin, c'était un truc où on s'est senti un peu désemparés. Et du coup, en fait, c'était un peu pareil sur les autres cortèges. Et il n'y a pas eu de réaction unitaire et coordonnée de l'ensemble du mouvement féministe pour en fait aller virer ces deux collectifs dont on ne voulait pas dans la manif. Autant l'un que l'autre, c'était très clair pour tout le monde, c'était des collectifs dont la présence était plus que indésirable, quoi. Et donc, dès le bilan de cette manif du 23 novembre, on s'est dit c'est un échec collectif, on n'a pas réussi à l'empêcher parce qu'on ne s'était pas préparé à le faire. Mais la prochaine fois, on le saura, et ça ne se reproduira plus. C'est ça, notre mandat collectif. Et en fait, sur le papier, tout le monde était plutôt d'accord. Peu importe dans quelle tradition, dans quel héritage féministe les gens se situaient, dans quelle tendance du mouvement féministe les gens se situaient, les gens étaient globalement tous d'accord. C'est un échec, ça ne doit pas se reproduire. Là où c'était plus compliqué les discussions, c'est sur qu'est-ce qu'on met en place pour ne pas que ça se reproduise, est-ce qu'on en a les forces. Ça a été, nous, tout le chantier des semaines qui ont précédé le 8 mars.
Je crois que c'est vraiment important de souligner que c'était ça qui a guidé tout ce qu'on a fait pour préparer ce 8 mars, vient de ce qui s'est passé au 23 novembre et de cette idée qu'on ne voulait pas que ça se reproduise et qu'elle marche avec nous. C'était vraiment impensable. Parce que juste après le 23 novembre, enfin début décembre, les collectifs ont annoncé qu'ils manifesteraient avec nous, enfin qu'ils souhaitaient avec nous, je ne sais pas, mais en tout cas,
ouais, Némésis a rejoindre tweet, voilà. Tout de suite pour dire on sera là et tout de suite inviter Sarah Knafo à venir participer.
On savait quasiment tout de suite que c'était, elle voulait reproduire la même chose. Et donc comme nous, voilà, on s'était dit que c'était pas possible, c'est ça qui a guidé nos réflexions et d'abord à l'intérieur du collectif entre nous, savoir ce qu'on avait envie de mettre en place et puis après ce qu'on a porté auprès de grèves féministes notamment.
Et du coup la première étape ça a été de se dire on doit participer au cadre qui organise la manif pour pousser l'idée que le service d'ordre de la manifestation en cas de présence de l'extrême droite les éjecte. C'était le premier truc ultra important. On ne peut pas s'économiser de parler avec les syndicats, de parler avec les féministes des organisations historiques. Donc on a dit, ben on rentre à grève féministe pour convaincre déjà au sein de grève féministe, si les fachos sont là, le SO unitaire les vire. C'était le premier truc, la première étape en tout cas.
Parce que jusqu'à présent, en fait, on n'était pas dans grève féministe et on ne participait pas à la construction de la manifestation complète. On avait un cortège, on faisait notre cortège dedans, mais on n'était pas dans la construction. Et là, du coup, pour porter cette envie, il fallait qu'on parle avec tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on a rejoint Grève Féministe.
Et comment ça a marché, alors, quand vous êtes arrivé dans Grève Féministe et que vous avez commencé à poser ça? Vous avez eu un accueil plutôt consensus?
Non.
Non, mais quelles étaient un peu la teneur des discussions?
En fait, le frein, c'était on n'a pas les forces de le faire. Il y avait un truc sur lequel, moi je trouve que les camarades avaient raison. Les syndicats nous ont dit, dans toutes les dernières dates de ces dernières années, le SO unitaire de la manif, c'était le SO syndical. En fait, les féministes, il faut que vous soyez au SO. En fait, les syndicats, ils sont pas là pour faire de la prestation de service d'ordre en manif. Donc ça c'était le premier truc. Et nous on était d'accord, on a dit oui. Alors le premier truc ça a été de dire nous les féministes révolutionnaires, on va faire le service d'ordre unitaire de la manif. En fait, il va y avoir des gens qui vont pas faire la manif dans le cortège de notre collectif, qui vont être à la banderole de tête. Il y a des gens qui vont pas faire la manif dans le cortège de notre collectif, qui vont être sur les côtés et qui vont être répartis sur l'ensemble du parcours, parce que maintenant nous on organise la manif du 8 mars à Paris, et donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans notre cortège, et c'est la vie, c'est comme ça. Ça a été le premier truc. Le deuxième truc qui est venu très vite aussi, ça a été de dire elles vont refaire le même coup et arriver par la fin. Du coup, nous, on va fermer la manif. On ne sera pas avec les orgas féministes en début de parcours. On sera un bloc à la fin pour faire face à l'extrême droite si elles viennent montrer leur face dans la rue. Nous, on sera là.
Et parce que l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, juste, c'est qu'il y a une certaine ordonnance des cortèges. Et que donc, on ne voulait pas se retrouver avec le PCF qui ferme comme la fois précédente. Et du coup, c'est pour ça que nous, on voulait être à la fin du cortège pour avoir un collectif féministe qui serait là et qui tiendrait les positions.
Voilà.
Parce que idéologiquement, il n'y a pas par contre eu...
Non, il n'y a pas eu d'opposition.
Non.
Il n'y a pas eu de discussion. Tout le monde était d'accord pour refuser la présence à la fois de Némésis, à la fois de Nous Vivons, pour dire on les vire l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Si c'est que l'un qui arrive, on le vire. Si c'est que l'autre qui arrive, on le vire. S'ils arrivent en même temps, on les... Enfin bref, tout le monde était d'accord sur ça. C'était vraiment, on n'a pas les forces.
C'est vraiment une technique, quoi.
Et donc après, nous, ça a été de contacter et de discuter avec tous les gens qui ne sont pas dans grève féministe, mais qui étaient convaincables et qui pouvaient nous rejoindre sur ça. Donc le plus évident et le premier truc qu'on a fait, je pense, c'est de parler avec les autres orgas féministes qui font pas partie du cadre. Et donc on a tout de suite dit à Grève Féministe, il faut qu'on invite nous toutes dans les réunions d'organisation de la manif, parce que nous toutes aujourd'hui, à l'échelle parisienne en tout cas, c'est une force vive très importante dans le milieu féministe, donc il faut les inclure à la discussion, il faut qu'elles soient d'accord, il faut qu'elles le défendent avec nous, et il faut qu'elles envoient des gens au service d'ordre, parce que que ça va pas être que des syndicalistes et les féministes révolutionnaires, il faut qu'il y ait nous toutes aussi.
Peut-être qu'on a un peu marre de distribuer des pancartes.
Bah ouais, voilà.
Voilà.
Donc ça a été d'abord voilà, nous toutes et puis après toutes les orgas on va dire de notre sensibilité entre guillemets, donc qui se veulent voilà plus radicales machin et tout, l'Assemblée féministe Paris banlieue, tatati tatata, bon bref, là toute la galaxie des petits collectifs féministes. Et après ça a été les antifas, on a donc
vous êtes allé chercher donc des forces au-delà des organisations, ouais, féministes.
Ah oui, oui, alors nous on discutait déjà un peu avec les camarades de la Jeune Garde, on a commencé on a parlé du 8 mars très vite, et c'est même eux qui nous ont sollicité sur la question en mode qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous discutez de Cinémésis revient, tatati tatata. Donc on est allé chercher les antifas, on est allé chercher les écolos, on est allé chercher enfin tous les gens nous qu'on croise au quotidien, avec qui on discute déjà et qui on a déjà des liens. Aussi les camarades du NPA, etc., etc. Bref, tout le monde. Le cortège qu'on a fait le 8 mars, au moment où il a fallu sécuriser le cortège parce qu'en fait on se prenait des charges de keuf, et ben c'était tous ces gens-là.
Ok. Alors revenons justement un peu sur le déroulé de cette manifestation. Comment ça s'est passé, puisqu'il y a eu présence de Némésis et de Nous Vivrons, et donc il y a eu confrontation.
Notre idée qui a été défendue et qui a été acceptée par tout le cadre, c'était que si l'un ou l'autre collectif arrive, on refuse de marcher avec eux, donc la manif s'arrête. Ça, c'était ce qui avait été décidé de façon globale par tout le monde. Donc, quand on a vu qu'ils étaient là, bah, en fait, on n'est même pas parti de République au démarrage, puisqu'ils étaient là tout de suite dans une des rues adjacentes. Donc ça a été le démarrage de... Enfin, ou le pas démarrage.
Les 2h30.
Voilà, le début commençait à s'engager, en fait, sur la rue, sur le boulevard Voltaire, et après, ça n'a pas bougé. Et donc les camarades ont commencé quasiment tout de suite à faire une ligne face à la police.
Et, oui, parce qu'encore une fois, ces collectifs étaient encadrés, voilà, et protégés. Par des cordons de CRS.
Et ensuite, donc, bon, on a commencé à marcher. Et je sais pas, peut-être une demi-heure après.
Même pas.
Ouais, 20 minutes après.
15 minutes après, on s'est re-arrêté, voilà, parce que les CRS ont commencé à les positionner
derrière nous.
Sur la place au début du boulevard. Et donc là, on s'est arrêté et ça a duré longtemps.
Du coup, voilà. En fait, vraiment, c'est l'idée de ne pas marcher avec elles. Donc, on s'est réarrêté et c'est reparti. Sauf que ben, ça n'a pas beaucoup plu à la police. Et donc, bah, ils nous ont chargés.
Sachant que la veille, il y a des gens de grève féministe, des militantes féministes et des militantes syndicalistes qui avaient rendez-vous à la préfecture. Parce qu'il y a eu toute une discussion sur le parcours de la manif. Parce qu'à la base, on voulait faire République Madeleine et la préfecture ne voulait pas. Ils nous ont imposé République Nation. Bref, peu importe. C'est pas... Mais du coup, la veille, le 7, il y avait le 7 au matin, elles étaient 5-6 à la préfecture pour régler les derniers trucs. Et il a été redit à la préfecture. En fait, on ne manifeste pas avec ces gens. S'ils viennent, il faut que vous les fassiez sortir, parce qu'en fait, il va y avoir des bagarres. Et en fait, en tant qu'organisatrice de la manif, elles ont dit de façon claire, nous, on voudrait éviter qu'il y ait une baston générale place de la République le 8 mars. Ça ferait plaisir à personne. Donc, en fait, si elles viennent, vous les escortez vers
ailleurs.
Sortie. Vous les faites partir.
Ils partent.
Il y avait déjà eu des courriers qui avaient été envoyés suite au 23 novembre, et de la part de nous toutes, et de la part de grève féministe à la préfecture, pour dire on vous avait dit qu'on voulait. Parce que, enfin. Ça avait déjà été dit le 23 novembre, finalement la préfecture avait imposé leur présence. Là, c'est un scénario similaire qui s'est passé, et je pense que la question de la répression étatique et de la répression policière, là, à Paris, ce 8 mars, elle a été extrêmement présente. Ça augure d'affrontements à venir entre les féministes et l'État à Paris et peut-être aussi dans les autres villes. Donc je pense que c'est important que toutes ces questions d'autoprotection du mouvement féministe, de formation au service d'ordre, elles circulent au niveau national et que des camarades dans toutes les villes s'en emparent. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour nous, 8 mars, ça peut se passer n'importe où l'année prochaine, dans 6 mois, voilà.
Puis même, peut-être, ça augure des choses aussi pour l'ensemble du mouvement social.
Ouais. Non, mais parce que Grève Féministe, lors de sa conférence de presse quelques jours avant, avait dit très clairement, parce que les journalistes avaient posé la question, qu'est-ce qui se passe en cas de présence de l'extrême droite ? Et en fait, Grève Féministe a dit, on ne manifeste pas avec elle, on s'arrête, on partira pas tant qu'elles continueront d'imposer leur présence. Ça faisait partie des éléments qui étaient partagés et assumés en amont dès le 4 mars, du coup je crois que c'était la conférence de presse. Et le matin du 8 mars, Retailleau qui met un tweet pour dire que en gros c'est la honte, ces féministes qui veulent pas manifester avec tout le monde et qui divisent les femmes. C'était en gros ça en substance, je sais pas la citation exacte, mais c'est en gros ça qu'il disait. C'est Retailleau qui nous disait c'est pas à vous de décider avec qui vous manifestez. Ben en fait si.
Ok.
Mais du coup là voilà, la police nous a chargé. La police a chargé notre cortège. Ouais. Alors les violences policières en manif féministe c'est pas une première. En revanche et pour avoir après redemandé aux camarades de Grève Féministe et notamment aux plus anciennes, est-ce que vous vous souvenez d'une charge de police contre un cortège féministe un jour de 8 mars ? Elles m'ont toutes dit non. Donc il y a quand même un truc qui s'est passé ce 8 mars là, une charge qui était due à une provocation, parce qu'en fait il s'est rien passé, il n'y a pas eu d'agression des CRS, une charge sans sommation. Moi j'étais sur le camion face à eux et vraiment la seule chose que j'ai vue c'est les CRS sur une ligne, le commandant lever le bras et faire signe à la ligne de charger, et la ligne qui charge. Et franchement, c'était pas la première fois que je voyais une charge de CRS, mais en fait, dans une manif féministe, c'est chelou. Les camarades se sont fait charger et aplatir contre notre camion. et en vrai, c'était super impressionnant, mais d'une part, on a tenu. On a tenu parce que... on n'était pas seuls, à la fois on n'était pas seuls, nous les féministes révolutionnaires, parce que bon, il y avait plein de camarades de plein d'autres orgas qui ont participé avec nous, qui ont tenu la position avec nous. On n'était aussi pas seuls parce qu'on savait que derrière nous, il y avait toute la manif qui était d'accord et qui nous soutenait, et que en fait, l'ensemble du mouvement féministe ce jour-là était avec nous et contre l'extrême droite et contre l'action des flics. On a tenu. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on en retire, c'est à la fois la satisfaction d'avoir empêché l'extrême droite de manifester, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ça, ça a duré tellement de temps qu'à 19h30, les flics ont dû dissoudre leur cortège et les faire partir. La tête de la manifestation, et en gros, les deux tiers de la manif étaient déjà arrivés à Nation, elle avait déjà fait tout le parcours. Donc, en effet, on a empêché l'extrême droite de manifester, contrairement au 23 novembre, où elles avaient pu aller jusqu'au bout. Cette fois-ci, elles ont fait 200 mètres, elles ont mis le pied sur le boulevard Voltaire, et puis après, il ne s'est plus rien passé. Donc ça, déjà, pour nous, c'est une victoire. Et puis, en fait, on discute déjà des suites, et on n'est ni intimidé, ni effrayé, on est prête à refaire tout pareil, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on fera reculer l'extrême droite, et qu'il faut que les féministes, elles reculent pas face à l'extrême droite dans la rue.
En fait, on s'était préparé à cette éventualité. Oui. Et donc, on avait appris les uns des autres et les uns des autres mouvements, pas que les féministes entre elles. On avait appris des syndicats, de la Jeune Garde, etc. Et en fait, on était là ensemble. Et on était persuadés que c'était la bonne méthode. Et donc, c'est ça qui nous a aussi permis de tenir et de repousser les flics aussi.
Résultat, pour vous, il n'y a pas de sororité au-delà d'une idéologie politique.
Alors déjà, nous, féministes révolutionnaires, on parle de camaraderie.
Oui.
Et en fait, comme on l'a dit à plein de reprises ces dernières semaines entre nous, les femmes, c'est des sujets politiques. C'est pas des identités comme ça qui flottent au-dessus du monde des idées. En fait, ouais, tu peux être une meuf et être une ennemie de classe. Et ben, ce jour-là, le 8 mars, t'as rien à faire dans la rue. Parce que le 8 mars, c'est une date de solidarité internationale, c'est une date pour l'émancipation, c'est une date pour la liberté. Quand tu défends un projet de société qui est à l'opposé de ça, en fait, t'es notre ennemi. Donc non, on marchera pas avec toi. Parce qu'on n'est pas là pour faire un défilé de femmes, on est là pour faire une manifestation féministe, on est là pour renverser la table, on est là pour faire la révolution.
En dehors du 8 mars, on fait comment pour nourrir le mouvement féministe quand on fait partie de votre collectif ?
On continue à s'investir dans tous les mouvements, dans tout, là où on pense que ça colle avec notre ligne, et on continue à mettre des forces. Voilà, en ce moment...
Bah, on était à la Gaieté Lyrique
hier soir, avant-hier, l'expulsion des mineurs occupés.
La Gaieté Lyrique,
ouais. La Gaieté Lyrique, on y était avec certains camarades. On s'investit aussi toujours pour la Palestine, en fait, dans plein d'autres...
On organise la marche lesbienne.
Oui, aussi. Voilà, dans plein de mouvements, dans plein de luttes qui nous semblent importantes.
Dans les exemples que tu as donnés, finalement, tu as aussi placé la question féministe dans des problématiques et dans des luttes et mobilisations qui ne sont pas identifiées comme féministes. Ça veut...
La loi travail n'était pas non plus. Non, mais parce que nous, on défend que le féminisme, c'est une vision du monde. Et c'est pas juste les droits des femmes, c'est en fait un autre projet de société, avec un projet de société qui garantit à toutes et tous des vies dignes, des vies libres. Et en fait, déjà, le droit au logement, ça fait partie de ça. Le droit d'un peuple à vivre tranquillement, sans être victime d'un génocide et sans être colonisé, ça fait partie aussi de ça. Et puis, la marche lesbienne, je sais pas si j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi ça fait partie de ça, mais on est un collectif féministe qui réfléchit à comment refaire un autre monde, une autre société. Donc en fait, on est de toutes les luttes qui participent à construire cette société-là. Quoi.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour terminer cette interview?
Tant qu'il le faudra.
Bon, je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours, du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestations, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.